Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Tout le monde connaît la loi de 1905, tout le monde invoque cette loi. Elle est presque devenue un totem républicain et elle serait même devenue un pilier de la République, selon ce qu'en dit le président Chirac. Tout le monde la connaît tellement bien que, dans le fond, personne ne l'a vraiment étudiée. Et donc, d'une certaine façon, on fait parler la loi de 1905. Il y a comme un effet de ventriloquie de la loi de 1905, un effet magique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de cette loi, on la fait parler, on se met sous son patronage pour s'attirer les faveurs tutélaires de la République. Alors, c'est pour cela qu'il nous paraissait intéressant de demander à Émile Poulain de venir nous parler de son dernier livre, Scruter la loi de 1905, qu'il vient de faire paraître chez Fayard, pour que nous puissions y voir plus clair. Émile Poulain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le spécialiste en France de la laïcité. Vous avez été au CNRS, vous avez enseigné aux études en sciences sociales. Vous êtes l'un des cofondateurs en 1954 du groupe de sociologie des religions. Et nous vous avions reçu pour une série d'entretiens que vous aviez accordé à Daniel Masson et qui a fait l'objet d'un livre, donc France chrétienne, France laïque, qui a été publié en 2008 chez Des Clés de Brouwer. Et donc, dans ce livre-là, ça va nous permettre de faire la transition entre les deux livres, dans ce livre-là, vous disiez déjà que la loi de 1905 est d'une certaine façon considérée par tout le monde comme une vulgate. Tout le monde sait de quoi il parle, mais d'une certaine
façon... C'est la loi sur la séparation des églises et de l'État.
Voilà, voilà.
Ce qu'il est peut-être utile de rappeler.
Exactement. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et je voudrais revenir avec vous sur le travail donc, que vous avez fait dans Scruter la loi de 1905, qui est un travail presque d'archéologue, hein, d'Hercule Poirot de la loi de 1905. Vous avez suivi et vous suivez toutes les étapes, de mille feuilles presque, de cette loi pour l'établir, considérant effectivement que, d'une certaine façon, personne ne l'a vraiment établie jusqu'à ce que vous le fassiez vous-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que, grâce à vous, nous connaissons maintenant, désormais, la vraie loi de 1905 ? Considérant toutes les modifications, changements, toutes les lois qui, d'une manière ou d'une autre, interfèrent sur cette loi, alors que, préalablement, nous ne la connaissions pas.
Écoutez, je crois qu'il faut dire une première chose, c'est qu'il n'y a actuellement aucun texte de la loi de 1905 qui soit disponible et en même temps fiable. C'est-à-dire que toutes les versions que l'on peut trouver aujourd'hui présentent de graves défauts. Alors, ces défauts sont de plusieurs ordres. Il y a des lacunes, il y a des erreurs, et il y a des choses qui sont maintenues sans aucun intérêt. On dirait que c'est désormais sans objet ou c'est obsolète, voyez. Vous voyez, le véritable problème, c'est que toutes les versions qui sont publiées aujourd'hui se réfèrent au journal officiel du 11 décembre 1905. Or, en réalité, ce qu'ils publient, c'est le texte effectivement paru au journal officiel, mais modifié au fil des années. Quand Michel Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur, elle a publié une de ses versions en précisant que la loi avait été modifiée 13 fois depuis l'origine.
Alors vous semblez effectivement
J'arrive à 50.
La corriger comme un professeur corrige son élève en lui disant non, c'est pas 13, c'est 50.
C'est pas 13, c'est 50.
Voilà.
Ce qui veut dire que les versions actuellement disponibles négligent 37 modifications. Mmh. Vous voyez, c'est quand même assez sérieux si l'on veut savoir de quoi il s'agit. Alors, c'est donc la grande confusion qui règne actuellement. Et personnellement, ce que j'ai tenu à publier, c'est en amont du journal officiel, ce qui est considéré dans le langage des archives nationales comme la minute originale. La minute originale, c'est-à-dire le texte qui a été effectivement non pas imprimé, mais signé, paraphé par le président de la République et par les ministres qualifiés. Et je dois dire que j'ai eu une grande faveur, puisque aux archives nationales, on m'a invité à entrer dans le musée des documents où est conservée cette minute originale et où on me l'a mis entre les mains.
Alors, je tiens à préciser pour les lecteurs donc, que cette minute originale, donc, signée par Émile Loubet, président de la République, il y a un facsimilé de ce document dans votre livre.
Oui, oui, qui est un facsimilé, oui.
Voilà, absolument. Et deuxième chose, c'est que vous publiez, donc, vous, en tenant compte de ces 50 modifications, vous publiez donc, et c'est, je renvoie nos lecteurs à ce texte-là, vous publiez donc le texte de la loi de 1905 avec ses 50 modifications telles que cette loi existe.
J'ai trois chapitres dans cette première partie qui consiste à établir le texte de la loi de 1905. La première, c'est la minute originale, parce que là, on est véritablement sur ce que le président de la République a vu, lu, signé. Bon. Dans un deuxième chapitre, j'ai publié le texte des 50 modifications. Et il est d'ailleurs intéressant de noter qu'elle se divise à peu près pour moitié-moitié, c'est-à-dire que sous la Troisième République et le régime de Vichy, ce sont des modifications de fond, et sous la Cinquième République, ce sont essentiellement des modifications de forme. Les différentes modifications sont elles-mêmes de deux catégories, et ça je crois que c'est important à comprendre, parce que vous avez des lois qui ont pour objet de modifier la loi de 1905, et d'autres qui ont pour effet de modifier. Et c'est surtout ce qui s'est produit dans la Ve République. Par exemple, une loi qui a pour objet, si vous voulez, il est dit dans la loi de 1905 que les frais d'entretien et de réparation des églises sont laissés à l'usager, à l'affectataire, donc à l'église et au clergé. Or, en 1908, une loi est intervenue en disant que l'État et les communes pouvaient participer à ce financement. Je dirais que c'est une modification substantielle. Cette loi a pour objet de modifier la loi de 1905. En revanche, quand nous avons eu la loi qui a décidé que désormais on compterait en nouveaux francs et désormais encore en euros, c'est une loi qui ne vise pas la loi de 1905, mais qui a pour effet de modifier cette loi. Alors vous voyez, tout ça se mélange. Certaines modifications portent sur des chiffres, certaines modifications portent sur des mots et certaines modifications portent sur le fond.
Alors je voudrais, parce que profitons du fait que vous soyez là et que vous connaissez cette loi par cœur, que vous expliquiez donc à nos auditeurs cette phrase qui est la vôtre, « La loi avait tout prévu sauf ce qui est arrivé ». C'est-à-dire que vous dites effectivement que la loi de 1905 donc, a été votée hein, et que par le refus du pape Pie X des associations cultuelles, il a fallu tout refaire d'une certaine façon. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces modifications des 4 premières années qui ont substantiellement adapté, changé, fait en sorte que cette loi puisse exister alors que, d'une certaine façon, elle était quoi, morte-née, caduque aussitôt après avoir été promulguée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur cette genèse difficile, cet accouchement
Écoutez, il y a d'abord une première chose qu'il faut dire, c'est que cette loi s'intitule « Séparation des Églises et de l'État ». Or, et tout le monde considère que c'est une loi fondatrice de notre laïcité. Or, ce qu'il faut remarquer, c'est que le texte de la loi elle-même ne parle ni de séparation, ni d'Église.
Ni de laïcité.
Ni de laïcité. Elle a donc un autre langage. Hein ? Alors, il s'agit de savoir de quoi s'agit-il. Par ailleurs, le mot « séparation » dont il est question n'a jamais été défini. En fait, c'est un mot qui est apparu pour la première fois en 1869, une revendication de Gambetta, dans ce qu'on appelle le programme de Belleville avant les élections de 1869, où effectivement Gambetta demande la suppression du budget des cultes et la séparation de l'Église, dit-il, et de l'État. Oui. Bon. En réalité, on s'aperçoit que séparation, quand on regarde concrètement de quoi il parle, cette séparation consiste en deux choses. Premièrement, la suppression du budget des cultes. Et deuxièmement, l'abrogation du concordat de 1801, du régime concordataire. Oui, c'est donc ça la séparation, en clair. Alors, on est là effectivement devant un problème important parce que le budget des cultes, tout le monde a dit, sans le budget des cultes, l'Église va mourir. Or, dans la réalité, on s'aperçoit que le budget des cultes n'était qu'une petite partie de ce qu'on peut appeler le train de vie de l'Église. Si vous voulez, pour être un peu plus clair, le budget des cultes, c'était de l'ordre de 40 millions de francs, de l'ordre. Il y avait à l'époque 40 000 paroisses, disons 40 000 curés, vicaires. Hein ? Ça fait donc pour chacun à peu près 1 000 francs par an.
1 000 francs de l'époque.
1 000 francs de l'époque.
1 000 francs, oui.
Alors je sais bien que 1 000 francs de l'époque, aujourd'hui, c'est 5 euros. C'est rien du tout, quoi. Mmh. Vous voyez. Mais 1 000 francs par an, c'était quand même faible. Et La suppression du budget des cultes a été surtout ressentie dans les diocèses pauvres. Mais à Paris, par exemple, le député Denis Cochin disait « Nous, à Sainte-Clotilde, il était paroissien de Sainte-Clotilde, vous voyez, dans le 7e, une paroisse riche, il dit « Oh, nous, on ne s'est même pas aperçu que le budget des cultes avait été supprimé. » C'est-à-dire que l'Église avait d'autres ressources en dehors du budget des cultes. Et en fait, elle a passé cette épreuve, peut-être difficilement, inégalement selon les départements, selon les régions, mais finalement, c'est une épreuve qui a été facile à surmonter. D'autant que la loi de séparation est loin d'être une séparation intégrale. Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait le problème des édifices du culte. Et donc, le député radical, socialiste et anticlérical et grand médecin Victor Augagneur a proposé un amendement à la loi en disant « quand on se sépare, on se sépare ». Donc, toutes ces églises que nous avons nationalisées, que la Révolution a nationalisées, on les rend à l'Église. Nous, on n'en a pas besoin. Et la plupart des députés, la majorité républicaine, a dit « on ne va pas faire ce cadeau à l'Église ». Oui, ce qui est assez étonnant. Et donc, la République est demeurée propriétaire d'édifices du culte. Émile Combes a dit « on va les louer au curé, on fera un bail et on le renouvellera tous les 5 ans ». On fera un... Bon. Et finalement, les députés, les parlementaires, dont beaucoup étaient, je dis, des députés-maires, ce qu'oubliait Émile Combes, députés-maires n'ont pas eu envie de se farcir une renégociation du bail tous les 5 ans avec le curé de leur commune. Et donc, l'État, les communes sont bien restés propriétaires des édifices du culte avec affectation gratuite. Certains ont même proposé un bail emphytéotique, un franc symbolique. Et les députés, alors là, c'est encore pire, parce qu'un député maire, tous les ans, réclamait un franc symbolique à son curé, on ne va pas se compliquer la vie à ce point-là pour, par conséquent, affectation gratuite. Hein ? Et donc, l'Église catholique a la jouissance de toutes les églises nationalisées en 1789, si vous voulez, jouissance gratuite, et l'État demeure propriétaire. Moi, j'ai du mal à appeler ça une séparation intégrale, si vous voulez. Je vais employer une expression un peu vulgaire, vous me le pardonnerez, mais je dirais, c'est comme un vieux couple qui va devant le notaire et qui lui dit « voilà, on veut divorcer, mais on garde le même lit ». C'est exactement ça. Et depuis 1905, l'Église et la République vivent dans le même lit.
Oui, ça c'est pour la partie des bâtiments dont vous parlez. Mais effectivement, il y a eu toute une procédure qui a entouré cette loi de 1905, celle des inventaires, le milliard des congrégations.
Là, il y a eu beaucoup de malentendus.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu ce sujet? Bon, parce que
alors,
c'est toujours
un sujet qui
est polémique un peu. Et
alors,
donc,
vous avez eu en 1900 la loi contre les congrégations, où si vous voulez, toutes les congrégations non autorisées, qui n'ont pas reçu l'autorisation ou qui n'ont pas déposé une demande d'autorisation...
Dans les 3 mois, c'est ça?
Dans les 3 mois, voilà, sont dissoutes de plein droit.
Ce qui est un peu...
Donc, étant dissoutes, leurs biens sont confisqués et liquidés. Alors, là, si vous voulez, on peut parler effectivement de spoliation. Bon, mais la liquidation, en 1901, a été confiée à des liquidateurs privés qui s'en sont mis plein les poches, au point qu'il y a eu des procès devant les tribunaux et que 2 de ces liquidateurs ont été condamnés aux travaux forcés. Et à ce moment-là, la République a chargé les domaines, ce qu'elle aurait dû faire d'ailleurs depuis le début, a chargé les domaines de procéder à la liquidation.
Parce que ça devait être destiné pour les retraites ouvrières.
Alors, ça devait être destiné pour les retraites ouvrières, voilà, qui n'en ont pas vu un centime.
Voilà. Bon. Voilà. Ce qui n'a pas arrangé non plus le climat de l'époque.
1905, séparation des Églises et de l'État, les Républicains sont échaudés par cette expérience. Et donc, la mentalité, c'était « on se sépare, mais en veillant à ce qu'il n'y ait aucun détournement, au centime près hein ». Si bien que, à ce moment-là, si on se sépare, les inventaires deviennent obligatoires. Mais ce sont double inventaire et contradictoire. C'est-à-dire, le principe étant posé à chacun ce qui est à lui, encore faut-il le déterminer et l'établir. La seule manière de l'établir, c'est... La République fait un inventaire de ce qui lui appartient, mais un inventaire contradictoire avec le clergé. Le clergé fait un inventaire de ce qui lui appartient, mais avec l'administration, de manière à ce que chacun puisse faire valoir ses droits. Cette idée des inventaires a été très mal prise par l'Église catholique et a été prise en particulier comme une profanation pour une circulaire maladroite où il y avait une ligne demandant l'ouverture des tabernacles. Et cette ouverture des tabernacles a provoqué des tollés. Hein. Donc, les inventaires se sont mal passés.
Il faut quand même rappeler, ce que personne ne nie, le climat quand même d'anticléricalisme virulent.
Climat.
Voilà, donc c'était pas
écoutez, d'anticléricalisme...
Enfin, vous le dites avec beaucoup de sérénité, parce que vous connaissez votre sujet par cœur, Mais effectivement, le climat de l'époque était quand même extrêmement vif, vigoureux et anticlérical. Donc
Et anti-républicain, de l'autre côté. C'est l'anti-républicanisme répondant à l'anticléricalisme. Non, mais c'est vrai qu'il y a une photo, par exemple, qui a fait le tour de France et peut-être même du monde. C'était dans les Pyrénées ou dans l'Ariège, les paysans et qui avaient mis un ours devant la porte de l'église pour empêcher les gendarmes de rentrer. Oui. Alors, les inventaires ont quand même été faits, bien ou mal, le plus souvent pas très bien. Et en toute hypothèse, ils sont aujourd'hui inutilisables.
Oui. Inutilisable, oui.
Bah écoutez,
parce que vous dites
regardé l'inventaire de l'église Saint-Vincent de Paul comporte 70 pages.
Ouais,
l'inventaire
ouais.
de la cathédrale Notre-Dame en comporte 40.
Ah oui.
En précisant ici un tableau.
Parce que là, ah oui. Oui.
Comprenez, un tableau, un calice, comprenez, c'est totalement inutilisable. Et puis en plus, c'est beaucoup trop imprécis.
Donc vous dites qu'il y a eu 70 547 inventaires.
Voilà. Alors oui, et donc le travail a quand même été fait. Et d'ailleurs, une circulaire ministérielle précise. L'important, c'est que l'inventaire soit fait, peu importe si c'est bien ou mal. Bon, donc, si vous voulez, cet épisode des inventaires, en réalité, ne changeait pas grand-chose, étant donné les principes posés. Parce que la loi prévoyait que devaient se constituer des associations cultuelles en droit privé pour continuer l'exercice du culte. Oui. Bon, ces associations cultuelles ont été condamnées, je dirais pour une raison d'ailleurs en partie légitime, c'est-à-dire que le pape Pilis n'était pas sûr que ces associations pouvaient correspondre aux exigences de l'Église. Et il faut dire que la République n'avait à l'époque que très peu d'expérience des associations, puisque la liberté d'association avait 4 ans. Donc, personne ne savait comment fonctionnaient des associations en régime de liberté. Et en 1905, l'un des problèmes qui restait longtemps flou, c'était est-ce que ce seraient des associations de fidèles, ouvertes à tout le monde ? Et par conséquent à la majorité qui décide, ou bien des associations de gestionnaires limitées à quelques membres. Et finalement, la loi de 1905 a opté pour des associations de gestionnaires, 7, 15 ou 25 membres selon la population, si vous voulez. Mais, comment dire, c'était trop tard et surtout, ça n'était pas clair pour les milieux catholiques.
Puis en plus, ça a été fait sans négociation.
Et c'est, alors,
sans négociation avec le...
Le fait que c'était sans négociation, je dirais, c'était un principe républicain fondateur. Parce que la séparation ne se négocie pas, elle est le fait de la loi française qui, et c'est là où c'est un petit peu la conclusion que j'en tire, si vous voulez, c'est qu'il y a le non-dit de la loi de 1905. Or, ce que ne dit pas la loi de 1905, c'est que non seulement il y a une rupture des relations diplomatiques à l'époque, mais enfin, disons, c'est provisoire, mais surtout, on parle des deux pouvoirs, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. La loi de 1905, c'est la fin du pouvoir spirituel. Il n'y a en France qu'un seul pouvoir, qui est le pouvoir politique. Et il y a à côté des autorités militaires, des autorités religieuses. Les évêques sont des autorités religieuses, ils ne sont pas un pouvoir. Ça, je crois que c'est le non-dit fondamental de cette loi de 1905.
Sur la partie des bâtiments, donc, vous avez dit effectivement qu'il y a eu des inventaires, donc qu'il y avait les églises, les séminaires, les grands séminaires, les petits séminaires. Enfin bref, tous ces bâtiments-là ont été confisqués.
Non.
Non, alors expliquez-nous effectivement ce qu'il en a été.
Tous ces bâtiments n'ont pas été confisqués en 1905, ils ont été confisqués en 1789.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont nationalisés depuis la Révolution. Et en 1801, au moment du Concordat, ils le sont restés. Ils sont restés propriétés de l'État, des départements, des communes.
Donc ils appartiennent depuis la Révolution française à l'État.
Oui.
Voilà.
Et
donc
le Concordat les a mis à la disposition des évêques.
Voilà, parce que c'est une confusion
qu'on fait souvent. Classique encore aujourd'hui.
Voilà, c'est pour ça que je voulais vous préciser ce point-là. Donc ça veut dire que depuis 1789, tous les bâtiments appartiennent, sauf peut-être les séminaires ou les archevêchés, enfin, appartiennent donc à l'État.
C'est la règle générale, sauf quelques exceptions qui datent du 19e siècle. Oui. Et parce que là, il y a des séminaires qui se sont établis dans une propriété. Bon, il y a des... Vous savez, on trouve toujours des cas particuliers. Hein, des deux côtés, d'ailleurs, des cas particuliers.
D'accord. Donc, qu'est-ce que change ? Alors, redites-nous ce que change la loi de 1905 par rapport à cela.
Chacun ce qui est à lui. Donc, comme les églises et les chapelles paroissiales sont propriétés de l'État et des communes, elles le restent. Hein ? Alors, il se trouve qu'il y avait à peu près 2300 églises et chapelles paroissiales qui étaient propriétés des fabriques paroissiales, c'est-à-dire des paroissiens, vous voyez. Bon, et là, ces 2300 églises et chapelles auraient dû aller aux associations cultuelles. À défaut d'associations cultuelles, elles sont tombées dans l'escarcelle de l'État ou des communes. Mais je dirais, alors, premièrement, il faut bien voir que c'est un faible nombre, 2300 sur 40 000 à peu près, si vous voulez. C'est bon, c'est, on ne peut pas dire que ça soit énorme. Et puis, deuxièmement, surtout, ce qui devient propriété de l'État ou des communes reste affecté à l'exercice du culte. Oui. Donc, il y a peut-être spoliation de la propriété et maintien de l'usage, de l'affectation, ce qui, dans la réalité, ne change rien. Et aujourd'hui, un évêque vous dira, peu importe qui est propriétaire, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Mmh. Oui. Mais ça, et puis en plus, si c'est l'État qui est propriétaire, c'est lui qui en a la charge.
Mais cette lecture, qui oui. est celle de la loi de 1905 aujourd'hui, n'était pas très claire en 1905. Donc il a fallu effectivement...
Et non, voilà. Si vous voulez, ce qui m'a frappé en relisant les débats, c'est qu'à l'époque, rien n'était clair pour personne. Mmh. Ni du côté républicain, ni du côté catholique. Vous voyez, rien n'était clair. Et les débats parlementaires, si vous me permettez un vieux mot grec, je dirais les débats parlementaires me sont apparus comme une maïeutique. C'est-à-dire, véritablement, les idées se clarifiaient à mesure qu'on discutait. Et quand on a voté la loi, les idées n'étaient pas encore parfaitement claires, ni d'un côté ni de l'autre.
Mais entre l'intention, d'une part, et puis effectivement le renvoi de Combes, enfin la fin de Combes et puis le début de Jaurès.
Combes a disparu de la circulation voilà. avant la loi.
Voilà, absolument. Et donc ce passage-là, au moment de la rédaction, de la discussion oui. de la loi, a pacifié beaucoup ou a libéralisé beaucoup l'esprit de la loi.
Alors effectivement, on s'est trouvé là avec le rapporteur de la commission parlementaire sur le projet de loi de séparation des églises et d'État, était Aristide Briand. Et ce que Briand voulait, et ce qui l'a guidé pendant tous les débats, c'était une loi acceptable pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous constatons que la loi est acceptée par tous, si vous voulez, ce qui montre bien que Briand a réussi l'essentiel de son pari. Je dois dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce n'est pas la loi de 1905 qui nous gouverne, c'est la loi de 1905 modifiée, comme on dit dans les armements. C'est la loi modifiée. Et en particulier, la grande modification, c'est celle de 1942, sous le régime de Vichy, confirmée par l'ordonnance de la libération d'août 1944, si vous voulez, hein, qui pratiquement accorde des facilités plus grandes à l'Église en matière d'édifices du culte, de jouissance des édifices du culte ou de taxation, oui.
Ce qu'on voit bien, effectivement, dans votre livre, et eu égard à la connaissance parfaite que vous avez du sujet, c'est qu'en réalité, il faudra dire la loi de 1905 jusqu'à celle de 45, 46, 47.
En fait, 42.
Alors, 42 est confirmé par
la... Est confirmé en 44.
Voilà, 44. Oui. Donc c'est pendant ce laps de temps-là oui. que toute la loi va...
Trouver son équilibre.
Voilà, trouver son équilibre.
Mais je crois que le moment décisif, si vous voulez, est extra-parlementaire. Mm-hmm. Parce que, comme vous le savez, toute loi votée par le Parlement doit être suivie d'un règlement d'administration publique établi par le Conseil d'État. Ou par le gouvernement, mais entendu en Conseil d'État. Or, le rapporteur du Conseil d'État a eu, concernant les associations cultuelles, des observations qui ont, en quelque sorte, transformé la loi. Parce que ces associations cultuelles, disons, renvoyaient à la loi de 1901 sur les associations. Et le conseiller d'État, qui était rapporteur justement sur ce décret d'application, a fait remarquer que, d'après la loi de 1901, les associations se forment, s'organisent et s'administrent librement. Et donc, l'Église peut faire ce qu'elle veut. Ce n'était peut-être pas votre intention, mais vous l'avez voté. Vous l'avez fait, et donc ça s'impose à vous. Alors, Briand a sauté sur l'occasion, peut-être parce que ça allait aussi dans le sens de ses préférences, mais en mars 1905, il avait déclaré « Toute association doit être paroissiale, c'est une association de fidèles paroissiale, et il est exclu que ce soit des associations diocésaines constituées par l'évêque. » Et en novembre 1906, il tire les conclusions du conseiller d'État en disant « Mais l'Église peut parfaitement constituer des associations diocésaines présidées par l'évêque avec des membres, tous choisis par lui, tous nommés par lui et révocables à volonté. » Oui. Il y a eu donc là un passage qui a permis ce qu'on appelle l'accord de 1924 entre la France et le Saint-Siège. Et désormais, il y a des associations diocésaines dans chaque diocèse de France. Mmh. Oui.
Sur la partie, pour terminer cette première partie, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est que qu'est-ce que cette mise à jour du vrai texte de la loi de 1905 qui est la vôtre, donc non pas 13 modifications, mais 50, change quant à la connaissance que nous avons de cette même loi de 1905. L'établissement scrupuleux, précis, par couches successives de cette loi de 1905, telle que vous l'avez faite, voilà, en quoi est-ce qu'elle modifie les approximations des autres sur la connaissance que nous avons de la loi de 1905?
Bah écoutez, l'éternelle question, c'est de savoir quelle est l'importance d'un texte.
Non, c'est pour ça que je vous pose la question.
Est-ce
que c'est marginal par rapport à la compréhension que nous en avons?
Non, je dirais c'est central par rapport au texte et marginal par rapport à la pratique. Parce que quand vous publiez actuellement le texte de la loi de 1905 en disant que les curés seront inéligibles pendant une durée de 8 années après la loi dans la commune dont ils sont le curé, bon, 8 années, ça nous mène à 1913-1914. Ça continue à figurer dans la loi. Ça n'a plus aucun objet. Alors, la loi est encombrée de dispositions qui n'ont plus aucun objet. Il y a par exemple un article 11 qui prévoit des pensions et des allocations pour les membres qui ne bénéficieront plus de leur traitement mensuel sur le budget des cultes. Bon, mais là, ça concernait des prêtres. Pour avoir une pension, il fallait être né sous la Restauration, et pour avoir une allocation, il fallait être né sous le Second Empire. C'est toujours maintenu dans le texte actuel de la loi. Je dirais, ça n'a aucune raison d'être. Oui. Il y a encore un article maintenu sur le service militaire. Hein. Il y a des articles qui maintenant sont abrogés parce qu'ils ont été codifiés. Alors ça, c'est une subtilité à laquelle peu de gens sont attentifs, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup à la codification des lois. Il y a par exemple un code de l'éducation nationale. Or, le Code de l'éducation nationale abroge un article de la loi de 1905 interdisant de faire le catéchisme aux enfants des écoles publiques pendant les heures de classe. Cet article est abrogé. Vous dites alors, donc on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire, parce que maintenant, la loi est transférée dans le Code de l'éducation. Vous voyez? Alors, quand il y a une infraction, par exemple, il y a des infractions où il est prévu des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Or, le code pénal a supprimé les peines d'emprisonnement pour ce genre d'infraction. C'est toujours maintenu dans le texte actuel de la loi. Alors, vous me direz, est-ce que c'est grave? Je dirais, non, ce n'est pas grave pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a jamais d'infraction. Autrement dit, nous sommes là devant une loi qui a prévu, dans le climat d'anticléricalisme et d'antirépublicanisme, les républicains se sont dit, la loi, ça va mal passer, il va y avoir des infractions, donc on les sanctionne durement. Et en fait, aucune loi n'a passé avec aussi peu de difficultés. Il n'y a jamais eu d'emprisonnement, ou il y a eu un ou deux cas connus, si vous voulez.
Effectivement, votre livre donne l'occasion de relire cette loi et même de la lire vraiment. Il y a un titre 5, la police des cultes,
oui,
où il y a effectivement un certain nombre d'interdictions, de précisions quant à ce qu'un ministre des cultes peut ou ne peut pas faire.
En particulier, si un ministre du culte appelle au soulèvement contre la République. Comprenez que ça ne s'est jamais vu, au moins dans les chaires catholiques. Mmh. Et alors, maintenant, la grande terreur, c'est que peut-être cet article pourrait s'appliquer à des imams musulmans.
Absolument.
Oui. Et ce serait un paradoxe que la loi de 1905 s'applique un siècle après à un culte qui n'existait pratiquement pas en France il y a un siècle.
Parce qu'effectivement, pour continuer dans ce que vous dites, l'article 26 précise qu'il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Voilà. Article 28, il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics. Voilà. Donc cette police des cultes qui peut sembler obsolète et passée de mode. Est-ce qu'on peut aller vers une réactivation de ces dispositions pour un autre culte? C'est une question qui peut se poser.
Il appartient aux législateurs, aux parlementaires, de dire s'ils entendent maintenir de manière prévisionnelle ces articles concernant des infractions, si vous voulez. Mais je ne suis pas parlementaire, donc je n'ai pas voix au chapitre. Je me borne à signaler le fait.
Parce qu'effectivement, même les sonneries des cloches, article 27, même les sonneries des cloches sont réglementées par un arrêté municipal.
Alors, ce qui veut dire, par assimilation et extension, que l'appel du muezzin est lui aussi réglementé.
Exactement, c'est ce que je me permettais d'indiquer à nos auditeurs.
Oui, il est lui aussi réglementé, il n'est pas libre.
Voilà. Donc, je renvoie à tous nos auditeurs, donc, pour clôturer cette première partie de notre entretien, donc, à ces deux documents que vous donnez, donc les minutes d'une part du texte original et puis l'établissement de la loi en tenant compte des 50 modifications qui ont eu un impact d'une manière ou d'une autre sur la dite loi. Et donc, on peut dire effectivement que grâce à vous, nous connaissons véritablement la loi de 1905 telle qu'elle existe et telle qu'elle n'est peut-être pas complètement publiée par qui le ministère de l'Intérieur, qui le Conseil d'État ou autre organisme de l'État qui devrait, nous semble-t-il, prendre bonne lecture de votre livre pour mettre à jour la vraie loi de 1905, ce qui peut-être ne se fera jamais, considérant que toute modification ou toute réactivation ou toute remarque sur la loi de 1905 peut être considérée comme un appel à réactiver la guerre civile que l'on imagine entre les deux Frances. Voilà. Donc peut-être que tout votre travail ne sera pas utilisé par l'État et par l'administration.
C'est-à-dire que finalement, je crois que l'important ici, c'est le Conseil d'État qui est régulateur de la vie cultuelle en France. Et quand des cas lui sont soumis, il a sa manière propre de réfléchir, c'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à la loi de 1905 en général, il se réfère à tout un ensemble de textes qui peuvent être étrangers d'ailleurs à la loi de 1905. Et il se réfère également à la jurisprudence sur les différents cas qui lui ont été soumis depuis un siècle. Donc le Conseil d'État a un fonctionnement spécifique qui fait que même en l'état des textes de la loi de 1905, ils s'y retrouvent toujours. Et donc il y a au moins en France une institution qui s'y retrouve, c'est le Conseil d'État.
Donc nous mettons un terme à cette première émission que nous avons la chance de faire avec Émile Poulain. Et donc Émile Poulain, merci d'être venu. Et nous vous réinviterons donc pour essayer d'aborder avec vous ce qu'il en est de cette loi de 1905 et comment est-ce que nous pouvons effectivement la lire, la scruter dans son esprit, alors que nous avons vu dans cette émission comment est-ce que nous pouvons établir, grâce à vous, cette loi de 1905 qui n'est pas si simple et si claire pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup et donc je renvoie nos auditeurs à une seconde émission que nous aurons la chance de faire avec vous.